Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Depuis le mois d'avril 2013, la division de l'information publique de la MONUSCO mène la campagne avec le Conseil des laïcs chrétiens et islamiques du Congo en vue de sensibiliser les fidèles pratiquants de toutes les religions à la tolérance. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue interreligieux. Quel pourrait être, selon vous, l'impact du dialogue interreligieux sur la consolidation de la paix en RDC? C'est la question autour de laquelle on va se retrouver dans cette émission. Nous en parlons avec M. Vincent Depaul Kekolemba, qui est porte-parole du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Et nous serons aussi en compagnie de M. Idriss Katengue, membre du comité directeur de la Comico et secrétaire général en charge des questions de développement. J.R. Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Sous la supervision de Nicole Ngaka et Pierrot Elamiji vous la présente. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train ensemble de partager avec vous, auditeurs des Radio Capi, quel pourrait être l'impact du dialogue interreligieux, cela veut dire entre les religions, sur la consolidation de la paix en RDC. C'est le sujet qui fait l'objet de notre rencontre dans cette émission. Le temps que notre deuxième invité puisse s'installer, on va revenir à vous. Je rappelle encore, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons déjà Arsène qui est à Kikwit et puis vous tous qui voudrez bien intervenir. Mais bien avant d'aller plus loin, nous saluons nos invités, Monsieur Vincent Depaul Kekolemba et Monsieur Idriss Katengue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ce sujet avec les auditeurs des Radio Capi. On commence avec vous, Monsieur Vincent Depaul Kekolemba. C'est quoi un dialogue interreligieux?
Merci beaucoup pour la question. Un dialogue interreligieux, je ne saurais pas le définir en des termes très, mais je voudrais tout simplement dire ceci, que nous sommes appelés, c'est-à-dire les chrétiens et les islamiques, en conseil pour essayer de nous sensibiliser d'abord nous-mêmes, autour du thème qui nous est très cher, la paix. Nous avions pensé qu'il fallait commencer d'abord par les religions, parce que tous ces chrétiens, tous ces gens qui se combattent ou qui s'entretuent, ce sont tous des chrétiens, appartiennent aux différentes confessions religieuses. Voilà pourquoi nous avions pensé que le dialogue entre nous nous amènerait à la sensibilisation pour la paix, à la promotion de la paix. En fait, c'est dans ce terme-là que je peux, d'une manière succincte, définir le dialogue interreligieux.
Et Monsieur Idriss et Katigui, quand on parle du dialogue interreligieux, est-ce que c'est au niveau des leaders de ces religions, ou bien l'action peut partir aussi de la base, on peut dire ainsi, des croyants?
Merci pour la question, messieurs les journalistes. D'abord, pour commencer, le dialogue interreligieux, et si nous devons le définir, nous partons du fait que chacun de nous est croyant. Il a une foi, il a des valeurs. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la plupart des temps, ces valeurs et même ces croyances peuvent être partagées. Mais pour le savoir, il faut briser cette sorte de mur qui existe entre les adeptes des différentes religions, qui croient que la vérité ne se limite qu'au sein des quatre murs de l'Église. Ça, c'est de un. Maintenant, ce qui concerne notre manière de promouvoir ce dialogue, vous savez, en République démocratique du Congo, à proprement parler. Ceux qui suivent l'actualité religieuse peuvent se demander, mais est-ce que on peut encore appeler au dialogue interreligieux? Parce que si vous regardez tous les jours, les chefs de confession religieuse sont ensemble. Chaque fois que le pays est devant un défi majeur, en République démocratique du Congo, les chefs se mettent ensemble et dès qu'ils s'impliquent, il y a généralement une solution. Et je peux donner beaucoup d'exemples à ce sujet, qu'il s'agisse de la conférence nationale souveraine et même les dialogues intercongolais. À un moment donné, quand les choses avaient bloqué, il avait suffi que les chefs de confession religieuse donnent du poing, tapent du poing sur la table pour que les choses se décantent. Même tout récemment, par rapport à la guerre à l'Est, il y a quelque chose que l'opinion ignore. C'est que les chefs de confession religieuse, réunis comme un seul homme, avaient initié une pétition et pour mettre un terme à la fin, un terme à la guerre de l'Est. Cette pétition a été amenée jusqu'aux Nations Unies, dans certaines capitales occidentales et même au Proche-Orient, dans un plaidoyer musclé. Et les retombées n'ont pas tardé. Les chefs n'étaient même pas encore revenus au pays que nous avons commencé à sentir que les choses bougeaient. Malheureusement, cette expérience, comme vous l'avez dit vous-même, se limite à un certain niveau. Aujourd'hui, les chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo ont dépassé le stade du dialogue. Maintenant, ils sont dans ce que nous pouvons appeler l'agir ensemble. Mais l'initiative est restée suspendue à ce niveau-là. Maintenant, à notre niveau, des laïcs, chrétiens et musulmans, nous avons dit non, nous devons nous approprier de cette initiative de nos pères spirituels et l'amener jusqu'à la base. Il faut que les prêtres se parlent, les prêtres parlent aux imams. Et même aux adeptes de religions, parce qu'il n'y a pas que le christianisme et l'islam. Nous avons des religions syncrétiques, c'est-à-dire celle qui fait un mixage entre nos croyances traditionnelles. Alors, il faut qu'à tous ces niveaux, les gens se parlent, que les dialogues viennent dans l'opinion. Et c'est ça notre entendement, c'est ça qui est dans notre agenda.
Monsieur Vincent Depaul Kekulemba, mais comment dans cette mission protéger le croyant contre la manipulation politique? Parce qu'il y a aussi ces croyants qui sont membres de ces religions, font aussi face à leur appartenance politique. Comment votre action au niveau de laïcs, par exemple, peut agir pour protéger ces croyants auxquels on appelle au dialogue à la paix contre les manipulations politiques?
Merci beaucoup pour la question. Mais de prime abord, je tiens à vous faire remarquer que c'est là un problème. C'est vraiment un problème parce que nous parlons en tant qu'idéalistes. Nous parlons de la paix en tant qu'idéal et c'est dans cet idéal que nous voudrions nous mettre tous ensemble. Mais il est bien vrai que, au-delà de cet idéal, au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de nos idéologies, il y a justement ce qu'on peut appeler la main noire. Il y a cette tentation-là parfois de se faire prendre par des manipulateurs, comme vous l'aviez dit, et alors, au lieu de jeter l'opprobre à ceux qui sont manipulés, on jette l'opprobre à tous les chrétiens. Et alors, comment le faire? C'est justement, comme disait mon frère, c'est dans cet effort de vivre ensemble, de travailler ensemble, que l'on se surveille, si vous voulez. Parce qu'en fait, la mission que nous avons, c'est une mission très noble. Mais comment est-ce que nous faisons participer les autres à cette mission? Comment nous la vivons? Ça, c'est vraiment un problème totalement individuel dans un sens. C'est-à-dire, là, ça repose sur des valeurs, ce que mon ami appelait ici des valeurs spirituelles. Parce qu'en fait, l'exemple devait venir de nous. Il n'est pas normal qu'on se dise chrétien, des lèvres, sur les lèvres, sur le bout des lèvres, et dans l'agir, on fait pire qu'un chrétien, on fait comme les autres. C'est là exactement le problème, monsieur le journaliste. Et cela nous arrive très souvent, que les gens tombent dans ces pièges de manipulateurs. Et alors, ça bloque quelque part et ça dérange réellement.
Bon, avant d'écouter les auditeurs, peut-être une autre question, monsieur Idriss et Katengue. Bon, est-ce qu'on ne peut pas dire que les religions arrivent souvent, agissent en aval au lieu d'agir en amont? C'est quand il y a déjà la situation, elle est déjà, on peut dire, détruite, que les religions, les religieux, si je peux utiliser les termes, s'élèvent, on le voit faire des plaidoyers. Mais pourquoi ne pas agir en amont pour prévenir plutôt que subir les conséquences et chercher à agir après?
Oui, merci. Je crois qu'il faut relativiser les choses. La tâche principale de confession religieuse, de religion en général, c'est de prévenir. Mm-hmm. Qu'il s'agisse de leur mission religieuse, qu'il s'agisse de l'engagement social, la plupart du temps, les confessions, les religions travaillent pour prévenir. En ce qui concerne la situation des pays, par exemple, nous, on n'a pas attendu que ce qui se passe au Nigeria arrive dans notre pays. Nous n'avons pas attendu que la situation à Centrafrique déborde ici. Voilà que nous avons commencé à agir. Mm-hmm. Mais comme vous avez dit, la difficulté, parce que vous avez posé la question à mon frère Vincent au sujet des manipulations. Le problème, effectivement, que les religions ne sont pas les seuls acteurs dans le domaine. Vous savez que l'une des caractéristiques du discours chez nous maintenant, c'est que le discours religieux est mélangé au discours politique. Mm-hmm. Et là, il y a la manipulation. À ce moment-là, la religion est exploitée de manière pernicieuse. Et c'est là que le problème commence. Mm-hmm. Si vous observez ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui, ce n'est pas un problème religieux. Mais vous voyez des gens fanatisés qui descendent dans la rue et qui commettent des bévues. Mais en amont, si vous regardez derrière, ce sont les dépositaires, effectivement, des religions qui disent non. Qu'il s'agisse de ces prêtres catholiques qui recueillent les musulmans tous les jours, qu'il s'agisse de ces imams et responsables religieux musulmans qui disent non, la violence ce n'est pas l'islam. L'islam lui-même signifie paix, on ne peut pas aller à cela. Vous voyez, le discours est vraiment différent de ce que nous constatons mm-hmm. dans la rue. Voilà. Parce que justement, le croyant qui est dans la rue, il est à la merci, non seulement mm-hmm. de l'opinion, mais aussi de tous les manipulateurs de tous bords.
Voilà, on va écouter aussi les auditeurs qui sont avec nous dans cette émission. Ils nous appellent de partout. Arsène est à Kikwit, Laguiloa est à Kalemi, Bruno est à Kananga, au Kassai Occidental. Quel pourrait être pour vous l'impact du dialogue interreligieux sur la consolidation de la paix en RDC? C'est la question. Si vous avez besoin d'intervenir, appelez-nous au 081 890 4969.
Parole aux auditeurs.
Arsène, vous nous appelez de Kikwit dans la province de Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Féro.
Et vous avez suivi hier, nous avons introduit avec nos deux invités, nous voulons partir du fait que si les croyants déjà apprennent à discuter entre eux sur la paix, il y a lieu qu'on puisse consolider cette paix parce que la RDC en a besoin. Pour vous, quelle doit être la démarche dans votre milieu là où vous êtes?
Merci beaucoup pour la parole. Moi, à mon avis, d'abord, je vais commencer à saluer l'initiative parce que les leaders religieux, ce sont des gens qui sont très écoutés par la population. Mm-hmm. De deux, il y a la moralité. La moralité populaire a comme socle la religion. Parce que nous sommes dans un pays qui est très religieux. Bien que la religion chrétienne est majoritaire par rapport à la religion musulmane, mais les deux religions prônent quelque chose. Ils prônent l'amour, ils prônent la paix. Pourtant, si nous voyons dans la pratique même de la paix et de l'amour, nous voyons qu'il y a des difficultés. Et ces difficultés-là sont à partir de la compréhension même de ce que c'est l'amour personnel, l'amour interne, qui va se sortir et va à l'amour du prochain et de la population tout entière. Mmh. Aujourd'hui, si vous voyez bien, les manipulateurs que vous appelez là, moi je les appelle les politiques. Ces politiques utilisent d'autres explications qui vont à l'encontre de l'idéal même qui est l'amour, qui est la paix. Parce que de l'amour vient la paix. Tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas de paix. Aujourd'hui, que les religieux prennent cette initiative, je ne peux que les encourager dans cette démarche parce qu'ils sont plus écoutés que les politiques. Et il faut être prudent parce que, prenons l'exemple des catholiques. Dans le catholicisme, il y a tout un principe de direction des croyants. On les appelle peut-être les brebis, on les appelle les enfants, on a tous les noms qu'on leur donne. Il faut les encadrer et il faut les protéger. Les protéger pas seulement contre les armes, mais il faut les protéger contre les mauvaises paroles, les mauvaises conduites et les mauvaises éducations. Mm-hmm. Voyez nos frères du Nord, en République centrafricaine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a la politique qui a influencé une certaine guerre. De cette guerre, la majorité de ceux qui menaient la rébellion étaient de la religion musulmane. Et la population qui a reçu les rafles de cette guerre était la population chrétienne. Aujourd'hui qu'on essaie de remettre la paix, on essaie d'étouffer les ministres et les rebelles qui ont fait cette guerre. Maintenant, c'est la population manipulée par des politiques qui vont se dire, écoutez, vous les chrétiens, vous êtes martyrisés par les musulmans. Maintenant, ce sont le peuple qui se met à l'encontre de la théorie de la paix et de la théorie de l'amour, qui commence à attaquer leurs frères, leurs propres frères de la même nation, sous prétexte d'une religion. Alors, où va la paix? La paix fuit quand il y a la guerre. La paix fuit. Parce que ce sont deux choses contraires. Alors, moi, je ne fais que féliciter non religieux qui ont pris cette initiative, qu'ils aillent vers l'avant, qu'ils éduquent la population avant qu'on puisse avoir de problèmes similaires ici chez nous. Je vous remercie.
Merci Arsène. Je retiens de votre intervention qu'il faudrait que les religions puissent protéger les croyants contre les manipulations. On pourra voir avec nos deux invités comment on procède, bien sûr, dans nos religions pour protéger les croyants contre les manipulations. Mais tout doit être basé sur l'amour, la paix. Merci beaucoup et les encouragements pour l'initiative. La Guillois, vous êtes à Kalemie dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Meji. Bonjour à nos deux invités. Je salue aussi Gilles qui est à la coordination de cette émission.
Merci, Laguillois. Comment on peut partir du dialogue interreligieux pour consolider la paix dans notre pays?
Et la Meji Wakabedi, bien merci à la radio Capi d'avoir organisé cette émission parlant des dialogues interreligieux. À ce sujet, avant toute chose, j'évoque d'abord un passage biblique qui dit paierai ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est dans Matthieu 5:9. Monsieur Pierrot, mais cette parole est mal comprise par certains sectes religieux, voire les soi-disant les représentants des différentes églises. Car ceci se laisse manipuler par la politique congolaise, voire les politiciens de ce pays. Je vois les églises veulent plonger le Congo dans l'événement du 5e siècle. Car leurs discours religieux sont mal aussi arrangés par le discours politique. Vous allez voir celui qui veut postuler. Il va se plonger dans une grande église où on voit toute une multitude de la population pour qu'ils soient votés. Et quand je vois l'événement aussi de 2013, ce ne sont pas les musulmans, mais quand j'ai entendu quelqu'un qui a parlé des musulmans, ce sont les membres de l'église qui réveillent, voire certaines églises qu'on ne peut pas citer. C'est pourquoi moi, à mon propre avis, je propose des pistes de solutions. Je vais demander à tous les représentants des églises de prêcher la parole de Dieu, car leur enseignement ne correspond pas encore avec l'enseignement du Christ, voire de Dieu. Et même au ministère de justice, il va appeler tous ses représentants qui ne se laissent pas manipuler par la politique congolaise, car eux ne sont pas des politiciens. Ils sont les messagers de Dieu. Ils sont les envoyés spéciaux de Dieu. Et je demande aussi que ces gens n'arrivent pas aussi et qu'ils puissent aussi obéir à la parole de Martin Luther King qui disait que c'est la foi sauve l'homme, mais les œuvres sont inutiles. Et je pense que ces gens ne voient pas, ce n'est que l'offrande et la dîme. Et l'enseignement, quand ils prêchent dans les églises, ce n'est que donnez-nous la dîme quand vous serez bénis.
Au-delà de tout, voilà. Laguillois, on ne pourra pas entrer dans le détail autour de ce que nous faisons dans nos confessions religieuses, mais nous restons dans le principe qui est important. Vous l'avez dit aussi au début avec Arsène, on a parlé des croyants qui sont manipulés, qui ne peuvent pas tomber dans la manipulation. Mais vous avez ajouté les leaders religieux. Vous insistez sur le fait que les leaders religieux ne soient pas aussi manipulés par les politiques, mais qu'ils restent attachés au message qu'ils ont à apprendre les valeurs qu'ils ont. Et vous avez beaucoup insisté sur ça, Laguillois, c'est ce qui est important, que les leaders ne puissent pas, à l'instar de croyants, mais que les leaders aussi ne puissent pas se laisser influencer par les politiques, voilà. Mais on ne fait pas les débats autour de religion, de contenu, de messages, de ce qu'on prêche, de ce qu'on dit. Bon, pour ne pas mélanger beaucoup de choses à la fois dans notre émission, mais on regarde ce qui est positif. Bruno, vous êtes à Kananga. Dans toutes nos religions, on l'a dit bien sûr, que la paix, l'amour, c'est la base même de nos messages. Mais alors, comment nous pouvons vivre cela et faire à ce que ça puisse accompagner la RDC sur le plan de la consolidation de la paix, Bruno? Bonjour.
Ok, bonjour, Pierrot et la... Et bonjour à tous les branchés de la radio. tout d'abord, je m'en vais vite à saluer cette initiative qui est prise par la communauté qui est donc un modèle vraiment à suivre par rapport à tout cela. Monsieur Pierrot, je voudrais un peu éclaircir la population et surtout les croyants, ceux qui se disent croyants, les croyants religieux. Donc, l'Église, c'est un modèle vraiment à suivre par rapport à leur comportement, par rapport à leur initiative et tout ce qui se passe dans leur Église. Là, c'est vraiment encourageant. Et puis, il ne faut plus qu'un chrétien ne puisse jamais être toujours emporté par la politique non plus, et non pas. Donc, des paroles-là qui ne sont pas bien, qui sont peut-être influencées par les politiciens, c'est pas du tout normal. Donc, il serait mieux que l'Église ou une communauté religieuse puisse vraiment être un modèle que tout le monde peut donc certainement suivre sans problème.
Voilà, merci beaucoup Bruno. Vous souhaitez qu'il y ait une communauté religieuse, les églises puissent être les modèles sans qu'ils puissent copier leur comportement sur le modèle de politique. Cela peut nous aider à avancer. Jean-Claude, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, bonjour. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, je m'excuse.
Vous avez suivi les uns et les autres. Notre souci, c'est de voir comment, par le fait que les différentes religions que nous avons dans notre pays, M. Idriss Katingi a pu expliquer très bien comment on a ces deux grandes religions, chrétiennes, musulmanes et les autres, bien sûr. Comment c'est le fait que ces religions s'approchent, discutent, comprennent sur le plan de la paix et de l'amour, comment cela peut-il contribuer à accompagner le processus de paix dans notre pays? Est-ce que c'est possible, dans quelle mesure, Jean-Claude?
Oui, merci Pierrot. Moi, je pense que la première des choses à faire, c'est de saluer d'abord l'initiative de tous les croyants, en tout cas ceux-là qui ont pensé vraiment à réunir tous les croyants. Mais il y a de quoi vraiment se poser quelques petites questions d'abord, avant peut-être d'enchaîner avec les idées. Mm-hmm. Parce que là, on nous parle, disons, ils nous ont parlé seulement des croyants. Et moi, je pense que tout le peuple congolais ne sont pas constitués uniquement des croyants. Je pense qu'il y a aussi ceux-là qui sont des non-croyants. Et à ma connaissance, ces non-croyants-là semblent être vraiment dans notre pays le plus puissant. Puisque si j'ai vraiment une bonne mémoire, beaucoup de gens vraiment qui sont un peu puissants ici au Congo, si nous regardons très bien, on ne connaît pas s'ils sont croyants ou pas, puisque ils ne se manifestent pas, on ne sait pas où ils prient, et vous voyez un peu, ces gens-là sont plus puissants ici, ils sont minoritaires bien sûr, les croyants sont majoritaires, mais ils ne sont pas plus puissants. Mais ceux-là qui tirent les ficelles ici au Congo, en tout cas, semblent être non-croyants. Et si seulement ils, à leur niveau de croyant ou à notre niveau, puisque je suis aussi croyant, si nous arrivons à nous mettre d'accord, puisque c'est la prévention, bien sûr, nous ne pouvons pas attendre que peut-être ce qui se passe ailleurs arrive jusqu'à nous. C'est vraiment une bonne chose si tous les croyants doivent se mettre vraiment dans un même bateau et parler le même langage, nous allons éviter tous ces problèmes. Mais que dire des autres qui tirent les ficelles, qui sont non-croyants et qui semblent être plus puissants? Ça, c'était la petite question que j'ai posée à nos amis. Nous parlons de la prévention, bien sûr, mais il y a aussi maintenant le problème que nous vivons présentement avec de nombreux groupes de rebelles, des maïmaï, tous ces gens-là aussi constituent un danger présentement, puisque c'est un danger à la paix. À ma connaissance, ils ne sont pas croyants. La majorité, vraiment, des maïmaï, des je ne sais pas quoi, d'autres là, ils ne sont pas croyants. Mais c'est, que faire? Comment est-ce que nous pouvons les atteindre? Puisque ces gens-là sont hors de la portée des croyants. Mais comment est-ce qu'on peut les atteindre? C'est vraiment une bonne initiative, mais seulement s'ils peuvent déployer les mécanismes hein, pour atteindre ces gens-là. La minorité qui sont non-croyantes, mais qui est plus puissante ici au pays, et ces gens-là qui sont non-croyants aussi, qui sont trompés par-ci, par-là.
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Je vais finir,
oui.
Pierrot,
terminer rapidement, oui.
Le problème de pasteurs, de ne sais pas, bishop, tout ça. Nous sommes conscients, monsieur Pierrot, nous sommes conscients qu'il y a d'autres églises qui sont fantômes, qui sont à la solde des hommes politiques, des non-croyants, si nous devons les dire clairement. Mais ces gens-là, vous pensez seulement qu'ils peuvent vraiment laisser la machine avancer, alors que eux, leur problème, c'est de créer la division, amener les hommes de Dieu à travailler pour eux, donc pour à leur solde. Est-ce que ces gens-là peuvent faciliter
Merci.
La chose?
Merci beaucoup, Jean-Claude. Effectivement, dans votre intervention, il se dégage la complexité du problème, n'est-ce pas, auquel on fait face. C'est pas plus facile comme on le découvre avec l'intervention de Jean-Claude. Il y a d'abord ce problème de ce que vous croyez être à mesure de tirer les ficelles qui font de la manipulation, mais qui ne se retrouvent pas dans nos religions. On ne le voit pas aller ni le vendredi à la mosquée, ni le dimanche à l'église, mais ils ont le mot à dire, ils ont le pouvoir de manipuler. C'est un problème, comment les atteindre. Mais il y a aussi le problème de ceux qui prennent des armes, par exemple, des groupes armés, ceux qui ne fréquentent aucune religion, comment on peut les atteindre. Mais aussi le problème de communautés religieuses qui elles-mêmes sont à la solde de politiques. Voilà, la question elle est très très complexe, ce qui fait qu'on va revenir directement à nos invités pour essayer de placer les mots par rapport à ce que les auditeurs ont dit. Et pendant ces temps, Epanzola de Kinshasa et Patient de Lubumbashi garde la ligne. On va revenir à vous. Je rappelle encore que notre question c'est comment, quel pourrait être selon vous l'impact du dialogue interreligieux sur la consolidation de la paix dans notre pays. 081 890 4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais, auteurs, compositeurs, interprètes. Une adresse mail est à votre disposition: musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs.
Vincent de Paul Kekulimba, à votre place, je me dis la tâche. Elle est immense en écoutant les auditeurs. Arsène dit, vous avez cette mission de protéger le croyant contre les manipulations. Ça, c'est vraiment une tâche très immense. Quand on écoute les uns les autres, le problème est très complexe parce que les uns, ils peuvent être en train de manipuler, mais ils ne sont pas croyants. Mais ceux qui sont croyants n'ont pas un mot à dire. Voilà, en ramassant un peu tout ce que les auditeurs ont dit, la complexité de la tâche pratiquement, comment vous menez cette campagne pour arriver à concilier tous ces points de vue et vraiment accompagner ces pays sur le chemin de la paix?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La tâche est réellement immense. Non seulement elle est immense, mais elle est complexe comme nous l'avions reconnu.
Mm-hmm.
Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes une communauté humaine. Nous ne pouvons travailler que dans notre humanisme teinté de nos convictions. Comment nous travaillons? Comment nous y prenons nous autres? Nous avions dit que nous sommes dans une campagne de sensibilisation. Il est bien vrai que ce sont des confessions religieuses qui prennent les choses en main. Mais nous allons vers la population. Quand nous disons population, nous n'allons pas que dans les églises. Prenons par exemple cette campagne actuelle. Mais nous allons dans des marchés. Au marché, nous n'avons pas d'église de prédilection. Tout le monde se retrouve. C'est un message de paix. D'amour que nous apportons là-bas. Il se trouvera certainement 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui entendront ce message, qui vont l'intérioriser et qui vont faire campagne avec nous pour l'amener le plus loin possible, aux confins de la terre, comme disait Jésus.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, tout ce qui arrive là, que ce soit ce que notre frère de Lubumbashi appelait le puissant, ces puissants-là ont des frères, ils ont des sœurs. Même si ce sont de sangsues, mais à un moment donné, ils se trouvent dans leur famille des gens qui leur disent « Non, trop c'est trop, je crois qu'il y a une voie à prendre pour le bien de tout le monde. » Et c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de... Parce qu'on ne saura pas tout faire, mais on ne saura pas non plus laisser tomber le bras.
Mm-hmm.
Il faut absolument parler
parler et on se fera entendre, ne fût-ce que à un certain degré. Donc, nous nous adressons non seulement aux croyants que nous sommes nous-mêmes, non seulement aux théistes que nous sommes nous-mêmes, mais nous sommes en train de mener campagne, en fait, à notre population, pour que cette population comprenne l'intérêt qu'il y a à vivre, à chercher, à rechercher tous ensemble la paix. Parce que de la paix procédera l'amour, et de l'amour procède la paix, et vice versa. Tant qu'il y aura la paix, tant qu'il y aura un peu d'amour, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de division, il n'y aura pas de discrimination.
Mais parce que nous avons évoqué le mot dialogue, quand je me dis, en regardant notre société aujourd'hui, je me dis, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est le même constat, il n'y a pas ce qu'on appelait l'arbre à palabres qui permettait à l'Africain de résoudre les problèmes. Aujourd'hui, avec le modernisme, quand on regarde même au sein de nos familles, les dialogues s'amoindrissent de plus en plus. Les gens ne causent plus, les gens sont enfermés dans leur téléphone portable devant la télé, les papas, la maman, c'est un constat peut-être que moi je fais. Et alors, comment le message que vous portez peut d'abord s'adresser aussi au niveau de la famille? Parce que si déjà l'enfant ne sait pas dialoguer en famille, il ne pourra pas dialoguer avec le voisin ni avec l'autre membre de la communauté. Et c'est encore compliqué quand ce membre plutôt de la communauté ne partage pas la même foi, la même religion.
Oui, c'est vrai, monsieur le journaliste, ça a l'air d'être si... Mais je crois quand même que le dialogue, d'abord nous l'appelons de tous nos voeux. Vous êtes en train de dire que le dialogue est en train de fuir nos milieux de vie, nos milieux de
déjà
travail.
Déjà le cadre restreint de la famille.
Oui, c'est vrai, mais ça dépend de ce que l'on veut. Parce que si nous voulons quelque chose, on peut agresser ces milieux hostiles au dialogue. On peut les agresser et obtenir ce que l'on veut. Et d'ailleurs, comme disait autrefois mon frère et ami Idriss qui échange avec nous ce matin, les hommes de médias, ce que nous sommes en train de faire ici, vous savez, il y a des gens qui vont tomber sur la fréquence de la radio Capi sans peut-être le savoir et sans le vouloir. Et ils vont entendre un mot qui va aller tout dans le cœur. Ils diront, mais écoutez, je vais quand même suivre cette émission-là. C'est déjà quelque chose. Et ce dialogue, comme je disais, il ne doit pas être un volontarisme. Il doit être quelque part... Nous qui prenons le jour, nous savons pourquoi nous faisons cela et pourquoi nous voulons aller vers les gens. C'est-à-dire qu'il faut parfois agresser, comme je disais. Il ne faut pas seulement attendre que les gens
viennent
vers nous.
Voilà. Monsieur Idriss Katengui, vous avez suivi les auditeurs. Je sais que des fois, il se dégage que les membres de la communauté ont tendance plus à s'intéresser des fois à ce qui les divise que ce qui les unit. On a suivi les uns et les autres. Tous disent notre base, c'est l'amour, c'est la paix. Comment faire à ce que nos membres de confession religieuse puissent plus se regarder à ce qui nous unit que ce qui nous divise, que ce soit même eux qui sont dans la politique, ceux qui ne sont pas dans la politique, puissent voir dans une même direction qu'est-ce qui peut être plus comme notre force que comme notre faiblesse pour qu'on puisse travailler pour la paix?
Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je tiens à préciser à l'intention des auditeurs que la campagne en faveur du dialogue interreligieux qui est menée maintenant est l'initiative du Conseil des laïcs chrétiens et musulmans du Congo, en abrégé COLSIC. Donc, c'est des personnes comme les brillants intervenants ici qui se sont dit, mais puisque les chefs spirituels travaillent ensemble, mais pourquoi nous ne pouvons pas mettre la main à la pâte? Et si jamais nous prenons la décision, qu'est-ce que nous allons faire? Et nous, on a dit, il faut ramener plus haut et plus bas le dialogue et l'ouverture qui est déjà visible et palpable entre les chefs. Et en même temps, je salue également la perspicacité des auditeurs et leur analyse qui est vraiment percutante. Les problèmes, comme vous avez dit, il est à plusieurs niveaux. Comme nous avons dit au début, d'abord, l'enseignement religieux, qu'il s'agisse de l'enseignement chrétien, de l'enseignement islamique, même dans nos religions traditionnelles, il n'y a aucune religion qui enseigne la violence. Toutes les religions, c'est la paix. La paix avec soi-même, la paix avec la communauté, la paix avec Dieu. En tout cas, ça, c'est le socle sur lequel toutes les croyances, du moins connues et enseignées publiquement, reposent. Maintenant, le grand problème, c'est, comme nous avons dit, cette manipulation, cette main noire qui inquiète notre ami Jean-Claude de Lubumbashi, qui parle, lui, de... Bon. et des non-croyants. Bon, d'abord, avec Jean-Claude, j'admets moi qu'on croit toujours à quelque chose. Hein, chacun de nous croit à quelque chose. Mais en ce qui concerne nos croyances religieuses, il faut quand même reconnaître que dans notre pays, il y a au moins 90% des personnes qui confessent les dieux, Dieu à haute voix, qu'il s'agisse des musulmans, des chrétiens ou d'adeptes d'autres religions. Mais ce sont ces gens-là que nous visons. Et il est difficile pour nous d'agir à l'ombre. Mais au moins, connaissant la victime de la manipulation, nous disons, si cette victime est sensibilisée, elle peut mieux résister aux différentes sollicitations. Voilà ce qui nous amène. Mais vous avez souligné un problème réel aussi. Le déficit des dialogues. Parce que le dialogue, en fait, ça doit être une culture. Vous voyez, chez nous, à chaque occasion qu'on parle du dialogue, il y a plus de problèmes que de solutions. Vous n'avez qu'à regarder à ce qui vient de se passer. On a lancé l'idée de concertation nationale dans notre pays.
Ça plus,
oui,
on a passé beaucoup de temps à se diviser, à discuter autour de termes.
C'est cela.
Qui allaient vers l'idéal.
Eh bien, ça, c'est ça les Congolais. Pourtant, pour comprendre ce que c'est les concertations, une concertation, vous n'avez même un petit dictionnaire de rien du tout. Peut-vous déjà vous donner la discussion et la définition. Mais chez nous, on a passé des mois et des mois à discuter autour des concepts. Et chacun regardant à sa direction. Ça ne favorise pas la culture du dialogue. Malheureusement, ça, c'est un héritage que nous tenons déjà de nos familles respectives, comme vous avez dit. Si déjà papa ne parle pas à maman lorsqu'il faut prendre les décisions ensemble, si déjà papa ne parle pas aux enfants, et nous avons du mal à installer la culture du dialogue et de la discussion. Ça, c'est un problème. Mais heureusement pour nous, les dialogues interreligieux que nous prenons, ce n'est qu'un moyen. Il y a plusieurs moyens. Au même moment, nous demandons aux croyants de tous bords, de toutes les religions, de parler entre eux pour découvrir, parce que s'ils se parlent, ils vont découvrir que la plupart des temps, les différences qui existent entre eux, ce sont des différences qui sont plus enseignantes que combattantes. Alors, nous insistons. Mais en même temps, il faut explorer d'autres méthodes. Et parmi les méthodes, nous, il y a les plaidoyers auprès des décideurs. Il faut effectivement que les dialogues que nous prenons soient accompagnés, soient encadrés, soient plus structurés. Et cela demande l'implication des chefs religieux, comme vous avez dit, mais aussi de ceux qui ont la responsabilité de gérer la paix dans le pays. Ça, ce sont des problèmes réels et nous nous y attelons. Et parmi, d'ailleurs, au cours de cette campagne ici, l'un de nos objectifs, c'est d'arriver à l'institutionnalisation d'une journée nationale du dialogue ou de la tolérance religieuse. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que souvent, comme vous avez dit, chez nous, nous attendons. On pense que le problème qui arrive, il n'arrive qu'ailleurs. Non, chez nous, ça, ce n'est pas nous, ça, c'est ailleurs. Et on ne fait rien. Alors que tous, nous sommes vulnérables. Voyez notre pays. Nous avons 9 pays limitrophes autour de nous. Et parmi lesquels, il y a la prédominance d'une religion ou d'une autre. Et étant donné notre position stratégique au cœur de l'Afrique, tout passe par là. Vous voulez partir de l'Est pour aller à l'Ouest, vous passez par la RDC. Et inversement. Vous voulez quitter le Nord pour aller au Sud, vous passez par la RDC. Et tous ces brassages de population amènent des contacts, des sensibilités aussi religieuses, culturelles, ainsi de suite, qui, s'ils ne sont pas bien canalisés, ça peut toujours générer des tensions. Et nous estimons que tout ce mouvement-là doit être encadré. Le dialogue, c'est l'un des moyens, mais il faut qu'il y ait des moyens politiques. Il faut qu'il y ait même des moyens économiques. Parce que vous ne pouvez pas prôner le dialogue s'il y a d'un côté toutes les personnes qui possèdent tout, et de l'autre, ceux qui n'ont rien. Et vous ne pouvez pas avoir un dialogue équilibré s'il y a les gens qui cumulent dans leurs mains tous les pouvoirs économiques, culturels, politiques et d'autres qui sont... C'est peut-être le problème qui s'est posé en Centrafrique. Alors l'instrumentalisation, c'est qu'on dit non, de tout le temps, une catégorie considérée que nous avons été aux affaires et c'était notre droit. Mais voilà que d'autres peuvent arriver. Est-ce qu'ils ne vont pas nous arracher les privilèges? Ça, c'est au niveau des tireurs de ficelles. Ce n'est pas au niveau de la masse.
Voilà.
Mais nous pouvons, par exemple, dans une action pédagogique, dire que la justice, je vais terminer par là, monsieur le journaliste, nous avons connu, je peux donner pour les pays musulmans, l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a été dirigé pendant longtemps par un grand président, aujourd'hui apprécié par le monde entier. C'est le président Léopold Sédar Senghor. Mais les gens ne savent pas que c'était un chrétien, mais qui était puissamment soutenu par les confréries musulmanes, puisque c'était un homme de justice, un homme de droit, un homme d'équité. Mm-hmm. Et je crois que pour mettre un terme à toutes ces frustrations, il faut aussi une bonne dose de la justice.
Voilà.
Et en termes de justice, il n'y a que le pouvoir public pour l'assurer.
Voilà. Je veux vous accorder la parole, M. Vincent Depaul, en un seul mot. Comment le religion aujourd'hui peut orienter leur message envers les leaders politiques par rapport à cette problématique que nous avons autour de la paix? Parce qu'on sait aussi que, avec, comme l'a dit M. Idriss Katenge, quand les uns n'ont pas tout, et que les puissants aient en face de ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en ont pas risquent d'échanger carrément leur discours pour qu'il soit un discours qui satisfait celui qui en a. Mais alors, comment nos religions peuvent se départir de cette souffrance-là d'échanger des discours quand on est en face des politiques compte tenu de leur position? En un mot, qu'est-ce qui peut être fait? Comme ça, on va encore répéter les auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce qui doit être fait, il faut que nos leaders religieux ou non religieux, comme tu aimes les appeler, sachent ce qu'ils veulent. Mmh. Ils ont un idéal. Qu'ils restent fermes dans leurs convictions. Et qu'ils établissent réellement ces dialogues, parce que nous parlons de dialogue. Mmh. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est quoi? Le politique ferme la porte aux hommes d'église, aux hommes de Dieu, s'il vous plaît, qui ne pensent pas comme eux. Ceux qui viennent leur enseigner l'amour, la paix. Alors, ils se rabattent sur ceux qui manipulent. C'est cela le problème. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, rester ferme dans ses convictions et solliciter à tout prix ces dialogues-là.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Nous allons écouter rapidement Epanzola qui est ici à Kinshasa et Patient est à Lubumbashi 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Epanzola, vous êtes avec nous en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, c'est moi Epanzola, Éthiopie, j'appelle depuis la commune de Kinshasa, Kinshasa. Mm-hmm. Oui, je suis d'accord pour ce concept de la consolidation de la paix dans notre pays. Je voudrais d'abord parler un peu avant de poser ma seule question que j'ai. Mm-hmm. J'ai constaté que Les hommes religieux, les pasteurs congolais sont utilisés d'une manière politique. Ils ont laissé leur chemin de la religion pour aller adopter le chemin de la politique. Pour dire que la politique vient de la religion. Tout pouvoir vient de Dieu. Nous comprenons ça. Et la politique doit être accompagnée de la religion. C'est vrai. Mais quand est-ce qu'un homme de Dieu peut être accompagné à la politique par un politicien? Parce que nous avons vécu ici à la période de l'élection, nous voyons des pasteurs qui font des propagandes pour les députés, qui font des propagandes pour leurs élus. Alors vous voyez le cas là, ce n'est pas bon. Ça n'amène pas une concertation pour la peine du pays. Vous voyez les pasteurs sont exploités pour un intérêt privé. Ce n'est pas bon. Alors, ma proposition est que pour qu'on puisse avoir la paix, la consolidation dans notre pays, il faut que les pasteurs sachent leurs responsabilités. Ils ont leur moment d'intervenir dans le pays, des prières, de participer dans des conférences, parce que ça les concerne aussi, comme la concertation nationale que le président avait fait. C'était bon. Il faut que les pasteurs soient là. Ils sont nos représentants. Donc, je voulais seulement que les pasteurs puissent connaître leurs responsabilités. Et les politiciens aussi, ils ont leurs responsabilités. Les politiciens n'ont pas là pour obliger corrompre les pasteurs pour les propagandes, pour les interlets. Donc, les politiciens prennent les pasteurs comme les éléments pour l'exploiter, pour leur pouvoir. Mm-hmm. Ce n'est pas bon. Ça n'amène pas la paix dans notre pays.
Merci beaucoup, Panzola. Vous voulez poser la question, c'est ça?
Un pasteur peut être utilisé pour les propagandes.
Vous voulez demander ici, un pasteur peut être peut-il être utilisé pour une campagne politique? Ça peut être n'importe quel leader religieux, un imam peut-il se mettre debout, battre campagne pour son croyant? Voilà, parce que vous pensez déjà le fait qu'un leader religieux prenne position pour un politique, ça fait déjà, ça pose déjà un problème. Mais j'ai retenu dans votre intervention, Epanzola, c'est le fait que les deux doivent s'accompagner. La religion accompagne la politique accompagne la religion. On pourra voir avec nos invités comment ils peuvent cheminer ensemble sur le chemin de la paix, et les politiques et les religieux. Merci beaucoup. Patient, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. C'est Patient qui vous appelle à partir de Lubumbashi.
Voilà, les temps passent vite. Hein. On vous écoute peut-être en une minute et demie par rapport à cette problématique autour de la consolidation de la paix par les dialogues interreligieux.
Oui, monsieur Pierrot, avant de poser j'ai des préoccupations, avant de les poser, je vais tout d'abord vous parler pour vous dire ceci avec beaucoup de regrets. Je vous dis que vraiment, je suis désolé pour notre pays, République démocratique du Congo. Quand bien même que vous trouvez quelqu'un qui est pasteur dans son église, qui implante son église à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, quelque part là, mais ces partisans qui prient avec les armes, est-ce que réellement ce sont les religieux, les vrais religieux, ces gens-là? Est-ce que, je ne sais pas si vous savez que, vous savez bien que ici à Lubumbashi, nous vivons vraiment en insécurité. C'est par rapport à ces gens-là qui fait, c'est l'homme, non, je suis pasteur. Et ici, on l'appelle Moutoumi Chiamongou, c'est pour dire qu'il est intermédiaire entre les gens et Dieu. Mais alors, je vais poser ceci. Est-ce que réellement toutes ces églises qu'on implante ici à l'RDC, l'État sait que réellement on a implanté une église là-bas, on a implanté une église là-bas. Est-ce que réellement l'État sait ça?
Voilà. Au-delà du fait qu'il y a des manipulations, même au niveau, nous n'allons pas dire patient que c'est seulement les politiques qui manipulent les croyants, mais il y a aussi les croyants, des manipulations internes au sein de la religion. Vous avez évoqué quelqu'un qui dit je suis un envoyé des dieux, mais qui est envoyé des dieux avec des armes. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, monsieur Idriss Katen, que les gens ont déformé le message religieux, parce que quand on voit la religion, on voit l'amour et la paix, mais on ne peut pas au même moment où on parle de l'amour et de la paix dans la religion, mais au moment où on parle de la violence dans la même religion. Voilà, c'est aussi les manipulations internes. Comment se protéger contre les manipulations internes? Merci. Mais vous avez posé la question de savoir, et ça c'est par rapport à l'État, comment l'État gère-t-il hein, toutes ces religions, ces églises qui s'installent à gauche, à droite. On revient à vous, Vincent Depaul. Vous avez suivi le deux amis, notre ami qui a parlé de l'accompagnement, le travail entre les politiques, les religieux. Comment peuvent-ils marcher ensemble pour raisonner sur les questions de la paix? Et cette inquiétude aussi de notre ami, hein, comment on peut aussi se protéger contre les manipulations internes, c'est l'extrémisme dans nos religions, par rapport à la tolérance, par rapport au rejet de l'autre?
Ben, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai l'impression que nous faisons de tourner en rond, parce qu'au fait, cette émission n'a fait que parler de la paix et du dialogue interreligieux qui est un facteur de paix pour la promotion de la paix. Et tout ce que nous avons dit, en fait, peut répondre suffisamment à cette question. Mais puisque les gens y reviennent, ils ont droit à une réponse. Je dirais, d'une manière ramassée, qu'il ne faut pas christianiser, et il faut plutôt christianiser le politique, et non politiser le christianisme, ou... Quand je parle du christianisme, que mon confrère m'excuse, je ne peux parler que de là où je suis et de ce que je suis. Mais ça signifie tout simplement qu'il ne faudra pas crucifier la vérité, comme disait le feu cardinal Maloula, qu'il vaut mieux être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité. En fait, le message de paix dont nous parlons, le message d'amour dont nous parlons, c'est un message qui nous vient de l'être suprême, et c'est ce message-là qui est un idéal pour nous, auquel nous voudrions bien. Mais les manipulations à l'intérieur, c'est comme ce que vous disiez un peu, c'est vrai que même à l'intérieur, vous l'avez si bien dit, même à l'intérieur des religions,
Il y a des manipulations, il n'y a pas que cela. Il y a des gens qui vous disent, des pasteurs qui vous disent, quand je dis pasteur, c'est pas au sens péjoratif des églises de réveil, mais pasteur parce que tout leader est un pasteur, qui vous disent, ne faites pas ce que je fais, mais faites plutôt ce que je dis. C'est-à-dire, pour lui, il vient juste faire son travail en enseignant, en relisant un peu quelques versets bibliques, mais quand il sort de l'église, il ne se reconnaît plus dans ce qu'il a prêché. Alors, il vous demande de ne pas faire ce que lui fait, parce que lui n'est pas capable lui-même de se prêcher à lui-même et de vivre sa propre prédication. Alors, ça c'est une excuse. Et ce sont ceux-là qu'on a appelés d'ailleurs les ouvriers de Dieu, dans une certaine théologie. On les a appelés les ouvriers de Dieu parce qu'en fait, ils viennent juste travailler, se retirer.
Mais ils ne vivent pas eux-mêmes ce qu'ils disent.
Ce qu'ils prêchent. Et ça, c'est ce que vous aviez dit, de contradiction interne. Ça, c'est très vrai. Mais maintenant, à ce niveau du dialogue, qu'est-ce que nous visons réellement? Nous visons le retournement des comportements, le retournement, le détournement même des mauvaises pistes pour être sur une piste, pour regarder tous dans une même direction, en vue d'un savoir vivre ou de mieux vivre. En fait, c'est parfois, ça paraît difficile, mais c'est en même temps facile. Puisqu'en fait, qui d'entre nous ne cherche-t-il pas à être mieux? Mais si nous crions injustice, c'est parce que nous pensons qu'il y a des biens, il y a la justice qui n'est pas suffisamment distribuée à tout le monde. Ça signifie que si vous n'acceptez pas l'injustice contre vous, vous ne devez pas l'accepter contre l'autre.
L'autre, voilà.
Et c'est cela exactement. Et c'est politique, comme nous le disions. C'est pourquoi nous pensons que les religieux ont ce devoir d'aller vers ce politique que nous pouvons appeler des brebis égarées pour le ramener à la raison, pour le ramener au souci du bien-être.
Voilà, ça c'est important. Il y a un auditeur, les derniers qui est en ligne, c'est Franck qui est à Vienne, mais on revient à vous, monsieur Idriss Kantengue. J'ai rebondi sur ces mots. Le ramener à penser au bien-être de tous. Alors, comment on peut arriver à les amener à penser au bien-être de tous en devenant soi-même indépendant au sein de nos confessions religieuses? On sait, quand on s'approche des élections, les leaders politiques se déversent dans les religions pour aller puiser les voix. Et directement, des fois, nos discours changent pour ne pas les ramener à la raison. On les laisse aller, mais parce qu'on a besoin d'étoiles, on a besoin de ciment, et puis on oublie. Et après, ce sont eux-mêmes qui ont donné, nos croyants qui ont donné ces pouvoirs, qui se plaignent des injustices.
D'accord, merci, monsieur le journaliste. Moi, je crois que, d'abord, il ne devrait pas exister de conflit entre la politique et la religion. Parce que chacun intervient dans un domaine bien déterminé. Chaque religieux, comme citoyen d'un pays, a besoin d'un élu. Il a besoin d'un dirigeant quelque part pour prendre en charge le problème public. De la même manière, chaque politique qui a choisi, qui est croyant, doit avoir son prêtre ou son imam. Et tant que chacun d'eux s'en tient à son propre domaine d'intervention, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas avoir de problème entre les deux. Mais le problème, c'est évidemment, comme nous avons dit, la dépravation de la mission de chacun d'eux. Quand les religieux estiment que sa chair, ou sa chair de vérité, c'est un lieu de propagande pour son politicien. Et ici, le politicien, ce n'est pas forcément celui qui a un bon projet de société. C'est le politicien le plus offrant. C'est celui-là qui est en connivence avec les chefs religieux. Et ça, c'est valable partout. Ça, c'est une dépravation. Et je crois que c'est un problème d'éthique. Ici, ce n'est même pas un problème c'est un problème d'éthique. L'éthique pour les chefs religieux, l'éthique pour les politiciens. Alors, il y a un intervenant qui a dit, est-ce que l'État connaît toutes les églises qui naissent? En principe, nous sommes dans un domaine de la loi. Les églises ici chez nous sont des ASBL. Pour avoir sa propre existence juridique, il faut absolument un acte juridique émanant de l'État. Mais le problème, est-ce que nous faisons toujours dans notre gestion quotidienne, nous faisons toujours ce que nous devons faire. C'est peut-être ça le problème.
Et est-ce qu'on peut permettre d'écouter, malheureusement, on aurait voulu vraiment rester longtemps pour en parler, mais on fait aussi face au temps. Franck, vous êtes à Vienne, désolé pour vous que dans 40 secondes, vous pouvez, comme d'habitude, essayer de conclure cette émission au nom des auditeurs. Franck, on vous écoute rapidement.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que il y a des politiciens qui se servent de certaines appartenances culturelles et religieuses, spirituelles ou quoi. Mais je crois qu'on se sert d'abord, avant tout, de l'ignorance et du manque de l'information de la culture spirituelle de beaucoup de citoyens. Parce que quand on n'est pas bien informé sur ces appartenances spirituelles, on peut facilement se laisser manipuler. Mais je trouve que c'est un sujet qui devra encore être développé, qui devra encore être exploité, parce que des guerres, des religions, on en a connu au cours de l'histoire, même jusqu'au 20e ou 21e siècle, il y en a encore. Alors, il ne faudrait pas que les gens se laissent manipuler. Je crois que ce qu'il faut aussi faire, c'est de bien former les gens.
Oui.
Parce que quand les gens ne sont pas d'abord bien formés, ils vont se laisser manipuler.
Merci.
Donc, il y a aussi l'ignorance, le fanatisme et le clientélisme qui s'ajoutent par rapport à tout ce que les uns les autres venaient de
thématiser. Merci beaucoup, Franck. Là, on est vraiment coincé par le temps. On a 10 secondes à chacun. La campagne continue. On pourra revenir en un seul mot parce qu'on a que 30 secondes pour terminer l'émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça en un seul mot, Monsieur Vincent Depaul? Un mot seulement.
En un seul mot, nous signons, nous persévérons, nous signons que le dialogue interreligieux reste un facteur de la promotion de la paix. Et que nous devons la rechercher, cette paix-là.
Merci beaucoup. À vous aussi, Idriss. Juste un mot rapidement.
Moi, je dis qu'il y a une seule religion pour les croyants. C'est la religion de l'amour et de la paix.
Merci.
Et c'est ce que nous enseignent toutes les religions.
Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés à produire cette émission que vous allez retrouver en rediffusion à 20h. Merci. Au revoir.